Ludovic Lagarde nous a proposé de créer ce Richard III de Peter Behrels au prochain festival d'Avignon, et nous avons trouvé que c'était une excellente idée. Et c'est pourquoi ils sont là ce soir. Voilà, je vais leur laisser la parole, et puis, comme toujours, après, on pourra discuter ensemble selon vos questions.
Bien, bonsoir. Bonsoir. Je voulais remercier Vincent de cette présentation. Vous dire d'abord le plaisir, le bonheur de retrouver le Festival d'Avignon, de retrouver Vincent Hortense et toute l'équipe du festival. C'est vrai que l'expérience de 2004 pour nous, enfin pour moi en tout cas, je parle en mon nom, a été un souvenir très important, un moment de mon parcours théâtral très très important, très très significatif. Parce que c'était, il y avait une atmosphère particulière. C'est vrai que le projet était assez énorme, parce qu'on jouait trois spectacles. On a pu faire une résidence très longue à la Chartreuse de Vinoble-les-Avignon. Et donc ça a été à la fois des mois de concentration, de travail, mais de joie aussi, de partage, de fête. Voilà, qui restera pour moi un des moments vraiment très très importants de mon parcours. Alors là, on revient cette année au festival avec tout à fait autre chose. Comme vous l'a dit Vincent, donc il s'agit de ce Richard III de Peter Behrels. Je reviens pas sur je peux revenir en deux mots sur ce que disait Vincent, c'est-à-dire que donc on s'est occupé avec Laurent de mettre en voix ces lectures de textes belges il y a deux ans, un an et demi, et c'est vrai que à la lecture de cette pièce, dès que nous l'avons lue enfin avec les jeunes acteurs qui sortaient de l'école de Cannes, tout de suite ce texte m'a frappé, il a je crois frappé Laurent, il pourra en parler aussi. D'abord immédiatement, c'est l'écriture. Voilà. Souvent moi, enfin dans mon parcours depuis le début, je suis, je reste extrêmement sensible au langage, à l'écriture, à la poésie contenue dans la langue. Et c'est d'abord ça qui m'a vraiment frappé. Il y a quelque chose d'à la fois extrêmement concret, d'à la fois extrêmement violent et d'extrêmement suave et doux dans cette langue, dans l'écriture de cet auteur, qui m'a vraiment touché. Peter Behrels, en deux mots, puisque j'ai ensuite fait sa connaissance, c'est un, voilà, on appelle ça un jeune auteur, il a mon âge, donc je sais pas si on a exactement le même âge, enfin voilà, il a 44 ans, il vient. Et c'est pas un hasard, je l'ai appris après, de la poésie. Il a commencé par la poésie, comme Olivier Cadio, avec qui je travaille, vous le savez, régulièrement. Ensuite, il a fait un roman, un premier roman, qui a eu, je crois, beaucoup de succès en Belgique. Et à la suite de ça, il a eu des commandes d'écriture pour le théâtre, il s'est intéressé au théâtre, et il s'est mis à écrire des pièces, donc. Et il a collaboré avec Wim van de Kribus, le chorégraphe, dont peut-être vous connaissez le travail, qui était le... ici au festival, il a travaillé donc pour Luc Perceval, Johan Simons, dont Vincent parlait tout à l'heure. Et là, en l'occurrence, il a produit ce texte, qui n'est pas ni une traduction, ni réellement une adaptation, c'est vraiment un texte, c'est-à-dire que c'est un Richard III, voilà, qu'il a écrit. Évidemment, l'écriture est fondée sur le Richard III de Shakespeare, mais c'est un texte tout à fait original. Je vais essayer de vous en parler maintenant. Donc je vais vous parler du travail. C'est vrai que ça, c'est une entreprise assez particulière, puisque là je suis en plein travail moi-même sur ce texte, puisque je travaille en ce moment à la scénographie, à la dramaturgie, c'est-à-dire que je suis plongé en fait dans cette écriture. Et nous sommes en train de réaliser la scénographie pour cet été. Donc je vais forcément vous parler par fragments, c'est-à-dire que je n'ai pas de ligne continue, je n'ai pas de lecture globale que je pourrais peut-être avoir après, dans un second temps, quand la mise en scène sera faite, dans la mesure où il y a maintenant, après le travail de préparation, toute l'expérimentation du plateau, que sera le temps des répétitions et de la création. Donc je vais vous tracer les lignes, je vais vous parler par fragments et essayer de vous parler de ce texte. Première chose importante, Verhelst n'a pas écrit un texte comme pouvait le faire par exemple Heiner Müller, quand il prenait par exemple le Hamlet Machine d'après Shakespeare ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il ne déconstruit pas le texte au sens allemand du terme. C'est pas voilà, il n'y a pas de travail de déconstruction a priori. Il suit la trame de manière assez fidèle dans sa linéarité de la pièce de Shakespeare. Ce qu'il fait, c'est qu'il réduit un peu le nombre de personnages. Là, il y a 10 personnages. Donc, il par exemple, il a rassemblé tous les personnages de criminels, de tueurs en un seul, qui s'appelle Loyal. Donc il a inventé comme ça un personnage qui est l'âme damnée, l'exécuteur des basses œuvres, le corps, on y reviendra, le corps agissant de Richard. Et voilà, donc ça c'est une première chose importante. Il a compressé comme ça la pièce. Je pourrais dire la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il a d'une certaine manière déshistoricisé. C'est-à-dire que on garde la trame de la pièce de Shakespeare, on la comprend, je pense, très bien, et en même temps, il enlève ce qui est de l'ordre de la parabole historique. Donc on est toujours à la cour d'Angleterre, il y a toujours la famille d'York, la famille Lancastre, on peut retracer toute l'histoire du Richard III de Shakespeare, et en même temps, il n'y a pas cet effet parabolique, c'est-à-dire qu'il enlève la parabole. Voilà. On est aujourd'hui, on est demain, on est juste hier, on est dans notre monde contemporain. Il abstrait au fond hein, de la pièce une version moderne, voilà, une version contemporaine. Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième que je pourrais vous dire, c'est que il réduit aussi en masse, c'est-à-dire que la pièce de Shakespeare, je ne sais pas dans son intégralité quand elle est montée, combien de temps elle dure, mais probablement c'est 4h30 ou 5h, hein. Ce sont des œuvres très larges, très importantes, très très vastes pour tous ceux qui l'ont vu. Là, je pense que c'est un texte qui se joue en 1h30. Voilà. Donc il réduit au sens de la masse, il raccourcit. Par exemple, à des moments, il prend un acte entier et il le réduit à une scène, donc il accélère le processus, ce qui lui permet ensuite de revenir et de faire des gros plans. Ça, on y reviendra après, c'est-à-dire qu'il va prendre, par exemple, quelque chose sur lequel il a envie d'insister, et il va faire un gros plan, il va ouvrir cette case-là, et il va insister là-dessus, développer des sujets qui l'intéressent ou qu'il juge important de développer pour notre monde contemporain. Il réduit doublement. C'est-à-dire qu'il réduit dans le sens de la durée, comme je viens de vous le dire, mais il réduit au sens, par voilà, métaphore culinaire, il réduit comme une sauce. C'est-à-dire que, et c'est ça qui m'a frappé vraiment à la lecture du texte, c'est qu'il y a comme ça des tas de moments où il concentre finalement la pièce, ou des moments de la pièce, ou des monologues, ou des scènes, et il en donne un caractère réduit, condensé, voilà. Ce qui donne, d'ailleurs, à des moments, cette violence-là, c'est-à-dire cette espèce de trajectoire, comme ça, rapide, violente. Il y a un moment, il est question de mercure, il est question de métaux dans la pièce, comme ça. Donc, il y a ça, l'écriture et le sens de l'écriture à avoir avec ça. Il métallise tout ça, il en fait une trajectoire plus raide, plus dure qu'un métal, voilà. Donc il y a cette chose-là. Pour continuer, l'autre chose qui ouvre ensuite des tas de pistes. Évidemment, moi je pense, je peux me tromper, mais il me semble là que ce texte est vraiment frappant et réussi, dans la mesure où il parvient à conserver au fond la richesse de la pièce de Shakespeare, hein. Et évidemment il y a une lecture intime et une lecture, je dirais, plus universelle, plus politique. Et pour en revenir à cette, peut-être commençant par la lecture politique, c'est plus complexe, mais je vais essayer de le dire. C'est qu'en déshistoricisant d'une certaine manière, il évacue la question de la politique au sens dirons-nous, péjorative ou au sens anecdotique. Hein. On suit moins, effectivement, les méandres de la conquête du pouvoir, des choses comme ça, même si Hastings, Buckingham, les personnages importants, légitimistes et traîtres, entre guillemets, de la pièce Shakespeare sont là et sont bien là. De cette manière, la petite politique est moins importante, et par contre, la grande politique, non, mais les enjeux politiques, peut-être, au sens fort, sont là, politique au sens où on voit bien le discours politique se déployer et ses conséquences sur la réalité. Pour ça, il a inventé une chose aussi dans la pièce, qui est une voix. Il y a, voilà, je sais pas si c'est un personnage, je sais qu'un acteur le fera, c'est Antoine Herniotte, mais je ne sais pas encore comment on va le représenter, ou pas, mais c'est très important dans son projet, et c'est un axe très important de mon travail, qui est que, tout au long de la pièce, il y a une voix qui raconte, en temps réel, toutes les conséquences hors champ, c'est-à-dire qui ne sont pas dans le champ de notre vision de spectateur, donc qui sont ailleurs, dans une autre réalité, c'est-à-dire à la tour, dans les geôles, dans la rue, et qui va raconter en temps réel, au fond, les meurtres, les conséquences de ce que nous voyons sur le plateau. Voilà, donc ça c'est une invention particulière de Werels, qui permet effectivement d'avoir en permanence cette question du champ et du hors-champ. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit? Comment on comprend ce qu'on voit? Comment on ressent ce qu'on voit du parcours de cette figure du mal, ou de la barbarie, ou de la violence politique? Et on entend, puisqu'il s'agit simplement d'entendre, hein, il n'y aura pas d'image, et j'en ai parlé avec l'auteur qui insiste bien là-dessus, et voilà, ça c'est vraiment passionnant à le faire comme ça. On entend, au fond, la production hors champ, c'est-à-dire les meurtres, la barbarie, voilà, à côté, pendant qu'on voit se dérouler les scènes de théâtre sur la scène. Voilà. Pour finir ce petit tour de piste, pardon, cette présentation, revenons sur le champ intime. Ce que fait donc Werels, on vous lira tout à l'heure avec Laurent justement un exemple, enfin un fragment du texte pour illustrer ce que je suis en train de vous raconter. Ce qu'il rajoute là pour le coup, c'est-à-dire cette accélération de la pièce de Shakespeare, lui permet effectivement d'avoir du temps et de la place pour autre chose, et ce qu'il occupe là, c'est justement l'intimité, c'est-à-dire c'est le champ intime. Par exemple, et ça c'est la chose la plus importante, il fait parler la mère, c'est-à-dire que cette duchesse qu'on voit dans la pièce, qui existe bien sûr, mais qui de manière allusive ou rapide parle de son lien maternel ou de son fils, mais qui se consacre quand même la majeure partie du temps à son rôle politique, là tout d'un coup devient une femme, pas comme une autre, mais une femme, une mère, et qui intervient dans la pièce, et particulièrement au début et à la fin, donc c'est elle qui ouvre la pièce et c'est elle qui va la clore, et qui raconte au fond de manière extrêmement intime le lien à cet enfant. L'autre chose, par exemple, importante, c'est la question de Lady Anne, puisque de la même manière, il prend le temps dans la pièce de développer la qualité de la relation érotique de Richard Anne. Alors, ce que ça donne et ce que ça produit pour nous, c'est tout d'un coup un effet comme ça de contemporanéité très intéressant à observer et qui va être très passionnant à travailler, qui est effectivement quelque chose de notre temps où nous avons affaire, nous, tous les jours, dans notre vie quotidienne, à cause ou grâce ou avec le développement des médias et l'utilisation que nous en faisons et que les politiques en font et que l'ensemble des dispositifs politiques qui gouvernent notre monde en font, qui est un accès à l'intimité d'un tyran. Et ça, c'est vraiment une question très intéressante à observer en ce moment pour moi, dans la mesure où c'est au cœur de notre vie politique, tout simplement. Alors, il ne s'agit pas de tyran, il s'agit, pour, là, par exemple, de la France, de nos futurs gouvernants, mais il est clair que leur vie privée nous intéresse de plus en plus, qu'ils en usent et que nous y intéressons. Alors, dans nos démocraties qui sont soit selon en crise ou en renouveau ou en questionnement, la chose est à observer de manière intéressante, hein, le couple, pas couple, fidélité, pas fidélité, départ, retour, vie privée. Il y a un effet de loft comme ça permanent, hein, qu'on vit, qu'on subit ou pas, hein, ou qui nous intéresse dans la vie de nos représentants politiques. Mais c'est vrai que c'est une chose qu'on connaissait moins ou qu'on ne connaissait pas autrefois. Et qu'est-ce que ça change dans notre regard sur nos représentants politiques? Est-ce que pour autant ils nous ressemblent davantage, ou au contraire est-ce que ça les éloigne de nous? Comment vit-on ça? Mais il est clair que ça change le regard qu'on a sur eux. Et on voit très bien en ce moment d'ailleurs des tentatives justement de se présenter non plus comme des icônes à l'ancienne, ou pour le coup si certains le font encore très récemment, mais d'autres de manière beaucoup plus simple, proche des gens, voilà. Donc on voit bien que tout ça influe énormément sur la vie politique, non pas que ça change justement les données politiques, mais que ça modifie notre perception. Et c'est ça qui est intéressant. Alors évidemment, là en l'occurrence, bon, là, je parle de notre vie française, mais il y a bien sûr des choses dans le monde qui se passent et qui sont beaucoup plus graves, soit qui sont directement liées à des grandes démocraties occidentales comme les États-Unis, soit qui sont liés à des personnages plus comment dire, plus radicaux et plus caricaturaux dans leur radicalité, quand on pense au fondamentalisme ou à certains tyrans qui continuent à gouverner certains pays du monde. Mais au fond, la question, je pense, est la même, c'est-à-dire qu'il y a voilà, très simplement, par exemple, j'ai été frappé il y a un mois et demi de voir dans le supplément du Monde un grand article sur le problème de oedipien de George Bush. C'est-à-dire qu'on nous expliquait effectivement que il fallait qu'il tue la figure du père, donc il fallait qu'il aille jusqu'au bout en Irak, qu'il aille jusqu'à Bagdad, ce que son père n'avait pas fait. Et là, récemment, il a même eu la peau de Saddam Hussein, puisque Saddam Hussein a été pendu. Donc, on nous expliquait que finalement, cette histoire d'Irak, c'était aussi un problème oedipien. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est un phénomène très nouveau, c'est-à-dire que la psychanalyse rentre dans notre vie par ce biais-là. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça change? Parce que pour autant, on excuse George Bush de ce qu'il est en train de se passer en Irak, ou au contraire, est-ce que ça intervient dans notre jugement? Est-ce que ça intervient dans notre manière d'appréhender les choses? C'est assez intéressant. Et l'autre chose que je voulais dire je vais y revenir après, mais autre exemple, par exemple, j'ai été extrêmement frappé il y a aussi très peu de temps, quelques semaines, de lire que le président Rafsanjani, le président iranien, quelques jours après avoir tenu des propos d'une violence inouïe sur la Shoah et sur l'extermination des Juifs, des propos vraiment antisémites de manière très très violente, j'ai appris que le président Rafsanjani avait un blog. C'est intéressant ça. C'est-à-dire qu'on peut aller sur le blog du président iranien en ce moment, sur Internet, et aller voir un petit peu quels sont ses états d'âme, comment il se sent, enfin, vous voyez. Alors c'est vraiment un phénomène intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change? Ou pas? Mais qu'est-ce que ça change dans notre point de vue et de la manière dont nous envisageons ces politiques, sur la représentation symbolique qu'ils donnent eux-mêmes et la manière dont ils manipulent leur image, mais surtout, est-ce que ça change fondamentalement le hors-champ? C'est-à-dire que nous avons l'impression d'avoir affaire à des gens comme les autres, c'est-à-dire qu'au fond, ça les rapproche de nous, puisqu'ils ont au fond les mêmes problèmes quotidiens, d'une certaine manière. Pour autant, les milliers de morts, ça existe toujours, la guerre existe, enfin, tous les phénomènes de barbarie, de destruction, de déshumanité, sont les mêmes, sembleraient être les mêmes, enfin, ne changent pas, d'une certaine manière. Ça, je crois que malheureusement, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes questions d'exploitation, c'est toujours les mêmes questions de barbarie, de violence, de voilà, ça change pas. Par contre, la représentation politique change. Et nous ne pouvons pas voir nos représentants politiques de la même manière qu'autrefois. Ce ne sont plus des grandes icônes sur la place publique, démesurées. Pour communiquer aujourd'hui en politique, il suffit d'une suite dans un palace, une petite caméra, un drapeau derrière, et on sait tout de suite que c'est une intervention politique forte, mais ça peut être très proche de nous. les modes de communication, la fluidité, la modernité, produit comme ça cet effet de familiarité, de proximité, de simplicité même quelquefois, mais ça n'engage absolument pas la résultante des actes. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant dans la pièce. Justement parce que Verhelst traite ces questions-là d'intimité, c'est que ça nous permet d'avoir une entrée comme ça, et en même temps traite radicalement du produit hors champ, c'est-à-dire des conséquences de ce que l'on voit et de ce à quoi on assiste. Donc il joue aussi sur cette ambivalence, parce que il est assez étonnant, cet auteur. Il va assez loin aussi à des moments. Moi, je lui ai posé des questions. Il se trouve que j'ai été frappé, donc si vous lisez le texte ou si vous venez voir la pièce, vous verrez des choses assez étonnantes, puisque dans le préambule à la pièce, en fait, il y a un ensemble de citations, en fait, dans la parole même de Richard. Par exemple, on vous lira si on a le temps tout à l'heure un monologue de Richard, le dernier, où il reprend de manière récurrente « J'ai fait un rêve »,« I had a dream », qui était en fait un truc de Martin Luther King, non, c'est ça? Il reprend une phrase de Nelson Mandela, à l'intérieur même du corps du langage de Richard. Il reprend même une phrase de Mahatma Gandhi. C'est-à-dire qu'il mixe à la parole de ce qu'on peut penser être la figure même du mal, hein, et qu'on a souvent d'ailleurs dans les films qu'on a pu voir, ou les adaptations comparées par exemple, on a monté beaucoup Richard III sous le nazisme, c'est-à-dire qu'on en a fait une sorte d'Hitler, c'est la figure du tyran absolu, du dictateur absolu, la figure du mal. Et lui fait une chose assez provocatrice finalement, c'est qu'il il niche à l'intérieur même de l'écriture du texte de Richard, des paroles de Martin Luther King, ou de gens comme Gandhi, donc de prophètes de la paix. Alors moi, ça me posait quand même question, donc je lui ai dit, mais comment... C'est bizarre de faire ça. Enfin, c'est assez osé, d'une certaine manière. Et puis, en parlant avec lui, j'ai mieux compris. C'est-à-dire que, effectivement, il se pose comme un peu comme provocateur. C'est-à-dire qu'il essaye de dénoncer à sa manière, en tout cas de mettre en lumière, ce danger de la mise en forme des utopies. C'est-à-dire que la mauvaise utilisation, évidemment, puisque c'est ça que ça probablement veut dénoncer, de certaines valeurs, que nous pourrions penser être des valeurs absolues, des valeurs incontournables, des valeurs qui ne peuvent produire que du bien dans le monde, et on le voit très bien en ce moment avec George Bush et l'administration américaine de ces dernières années, a au contraire autorisé des horreurs. C'est-à-dire que, alors après on peut discuter, c'est une discussion politique, c'est autre chose, mais simplement lui, il se permet de mettre ça en lumière, de le montrer, de le problématiser, et que, sous couvert de défense de la démocratie, y a eu quand même des choses horribles qui se sont passées ces dernières années dans le monde. Donc, voilà. Donc, cette manière qu'il a, un peu comme ça, étrange, mais vraiment passionnante, de presque mettre en valeur absolue la question de la destruction. C'est-à-dire qu'il le désidéologise, justement. C'est-à-dire qu'il ne baigne pas ce Richard III dans une idéologie. C'est pas ni Staline, ni Hitler, ni Ben Laden, il n'y a pas de fondamentalisme derrière qui soit exprimé. Il n'y a pas d'idéologie, hein. C'est assez abstrait au sens fort. C'est-à-dire que c'est mise en valeur absolue. Comment un être et pourquoi un être et tout d'un coup, peut agir de cette manière, et plutôt faire agir de cette manière. Parce que ça, c'est l'autre chose dont je vais finir là-dessus. Vous parlez, c'est que ce Richard a une dernière particularité, j'aurais pu commencer par là, mais bon, je le fais pas, je finis. C'est que c'est pas un Richard monstrueux au sens classique du terme. C'est que ce Richard n'a pas la difformité physique qu'a le Richard III de Shakespeare. Hein, vous savez que le Richard III de Shakespeare, est un être difforme, c'est-à-dire qu'il a un corps atrophié, un corps malade. Cette représentation donc du corps de Richard, fascinante, repoussante, devient pour lui une arme dans la pièce et transforme cette monstruosité en une séduction terrible. Là, en l'occurrence, non, pas de monstruosité apparente. Pas de corps meurtri apparemment, justement, peut-être le contraire, mais ça, Bon, ça, on va le voir dans le travail avec Laurent, qui est à mes côtés. On va le voir ensemble, c'est-à-dire comment c'est probablement justement intéressant parce que c'est le contraire. Non pas un corps, simplement un corps sans particularité, mais un corps malade, hein, d'autre chose, c'est-à-dire un corps qui n'en est pas un vraiment, une absence de possibilité charnelle. Par exemple, c'est un Richard qui ne peut pas toucher, qui ne peut pas être touché. C'est un corps qui n'agit pas, au fond. C'est un corps simplement qui fait vivre une psyché, et cette psyché, par l'intermédiaire de tueurs, par l'intermédiaire aussi du texte, de la force du texte, de la force de sa parole, hein, va agir et va détruire. Voilà. Donc c'est vraiment... c'est là que c'est intéressant, c'est vraiment presque opposé, c'est le contraire, et donc probablement c'est la même chose, et c'est ça qu'on va essayer de découvrir dans le travail. Et c'est ça qui nous renvoie encore une fois peut-être à notre monde contemporain, désincarné, virtualisé, où effectivement la représentation corporelle a moins de force, où les choses passent par le biais des médias, où les choses sont plus fluides, où sont plus rapides, sont plus électroniques, sont plus... voilà. Mais où la force de la psyché est entière, et où une parole proférée dans une grotte quelque part, devant une petite caméra Super 8, va déclencher des cataclysmes. Voilà. Donc c'est le parti pris de l'auteur. Voilà. Ben voilà, on va peut-être continuer avec un peu de lecture. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent ?
Mais avec plaisir.
Donc Laurent Poitrenaud, que vous connaissez peut-être, pas. Enfin, Laurent Poitrenaud, voilà, avec qui je travaille depuis maintenant très longtemps. Nous avons fait presque tous nos travaux ensemble. Nous étions à l'école de théâtre ensemble il y a 20 ans, dans une petite école à Paris. Et puis voilà, nous avons mené toute cette aventure de théâtre jusqu'à présent ensemble. Il a été donc le colonel des Oies, il a été dans toutes les créations d'Olivier Cadiot que j'ai fait. Et puis là, ben voilà, nous continuons ensemble et il sera ce Richard 3 de cet été. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lire, Laurent ?
Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ? Non, mais ce qu'on s'est dit, c'est un peu étrange comme exercice, parce que c'est vrai qu'on va démarrer la répétition en avril, enfin une petite séance en février, mais là c'est notre première séance de travail, c'est très chic en direct live. Ouais. Devant vous, quoi, c'est chiquissime, hein. Vraiment, il n'y a qu'avec le Festival d'Avignon qu'on peut se permettre ça, donc hein, profitons-en. Mmh. Mais par rapport à cet effet de... C'est vrai que je pense qu'une des choses qui m'a surpris quand on a travaillé sur les textes avec les élèves de l'Irak, quand on l'a découvert, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le titre, hein, juste Richard III, Peter Verhelst, comme on nous demande souvent, pourquoi c'est pas celui de Shakespeare
Pourquoi c'est pas sûr ?
Bah oui, c'est une bonne question, on répondra tout à l'heure, c'est après les questions. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser, et c'est pas un hasard, parce que le disait Ludovic, ils ont travaillé ensemble, mais au travail qu'avait fait Z.T. Hollandia, pour ceux qui l'ont vu peut-être, sur d'après les damnés de Visconti, ça s'appelait La chute des dieux, où j'avais eu à peu près le même effet en voyant le titre, je m'étais dit, Visconti c'est quand même pas mal quand même, pourquoi aller mettre ça au théâtre ? Enfin, c'était bien le film déjà, quoi. Et c'est vrai que les Flamands ont cette capacité, enfin les Néerlandais comme ça ont cette capacité d'invention, puis de réinvention, puis peut-être d'ironie, de distance sur les choses qu'on a peut-être un peu moins en France. Comme disent certains metteurs en scène ou auteurs flamands, ils n'ont pas la même histoire, donc ils ont moins de poids sur eux. Ils n'ont pas Racine, ils n'ont pas Molière, ils n'ont pas Corneille. Donc ils ont une forme de désinvolture avec les œuvres, mais que je trouve riche et vivante et vivace. Qui fait que quand j'avais vu Z.T. Hollandia et après être sorti du spectacle, il m'avait, ouais, j'avais été sponté, j'avais été eu, quoi, parce qu'ils avaient trouvé cette manière de travailler sur deux plans, ouais, sponté, hein, c'est pas très chic pour une soirée comme celle-ci. Je travaillerai mon langage pour les prochaines réunions au mois de juillet, mais c'est vrai qu'ils avaient cette force de travailler, en fait, le film travaillait en fond. Pour ceux qui l'avaient vu, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, d'ailleurs, il n'y avait pas d'impossibilité à voir le spectacle. Mais pour ceux qui avaient vu le film, il y avait cette force de le film circuler dans notre mémoire derrière, et puis eux réinventer autrement et avec une autre force, la force du théâtre, la force de travailler sur la voix, en l'occurrence, sur le son avec la musique d'Heiner Goebbels, tout ça. Donc c'était, il y avait vraiment cette chose très forte, quoi, de à la fois de ces deux plans qui avançaient. Et en fait, en lisant Richard III, j'ai retrouvé cette même chose. C'est que la pièce de Richard III de Shakespeare circule derrière, dans l'imaginaire, qu'on l'ait vu ou qu'on l'ait pas vu d'ailleurs, mais on a tous une image, une imagerie, une image de Richard, pour certains, elle est plus cinématographique, si on pense à Al Pacino qui a fait Looking for Richard, ou même des représentations cinématographiques, ou comme moi, j'ai pu avoir celle de Georges Lavaudan, que j'ai vue à l'âge de 16 ans, avec Ariel Garcia Valdés. La pièce de Shakespeare existe fortement, et voilà, en fond, comme ça, en toile de fond. Et lui arrive à mettre un autre plan, et je trouve intéressant pour nous, vu notre parcours avec Ludovic, pour ceux qui ont vu les spectacles sur les textes d'Olivier Cadiot ou de Gertrude Stein qu'on avait fait en 2004, cet effet de pouvoir avoir un pied dans le classicisme et un pied dans la modernité, enfin en tout cas dans le contemporain, de pouvoir avancer sur ces deux plans grâce à cet auteur-là. Et je trouve que cette manière qu'il a aussi de compresser la pièce, alors peut-être certains la trouveront trahie, je ne sais pas, c'est toujours les mêmes histoires, mais je trouve que cette compression, cette rapidité, cette fluidité, comme disait Ludovic, fait que, je sais pas, cette compression, je trouve, renvoie à une certaine forme de modernité, de pouvoir écouter Shakespeare, enfin pas Shakespeare, mais d'avoir en écho Shakespeare et le Richard III, Peter Verrest, dans un effet de compression, renvoie plus à notre époque, à notre temps, à cette rapidité qu'on a de... On ne peut plus lire les spectacles de la même manière, on ne lit pas les images de la même manière, on ne lit pas les histoires de la même manière. Je pense qu'on a une capacité par les médias, par les tartes à la crème, par l'internet, tout ça, a une capacité à avancer très vite. Les récits, on les devance presque maintenant. Et c'est comme si Peter Verrelles essayait de devancer comme ça ce récit de Shakespeare. Pas le devancer pour le trahir, mais le devancer parce que je pense qu'on a une capacité d'écoute maintenant des œuvres sur plusieurs plans en même temps. Je pense qu'on n'est plus sur une linéarité comme ça, où on a besoin des choses, qu'on nous explique bien les choses. Je pense que les choses se sont sédimentées et qu'il y a quelque chose de la pièce qui est construite comme ça et que je trouve passionnante. Alors après, comment on va faire ça? Je n'en sais strictement rien, mais je pense qu'on va faire confiance déjà au texte, hein, qu'on va vous faire écouter un peu. Alors moi, je suis un peu ému parce qu'en fait, moi, le texte, pour l'instant, je le lis dans ma chambre. Et encore, quand je dis « je le lis dans ma chambre », je le lis à voix basse, enfin dire je le lis même pas à voix basse, je le lis tout court quoi. Donc là je vais le lire pour la première fois à voix haute, c'est quand même chic, et pas dans ma chambre et devant à peu près 200 personnes, ce qui est quand même c'est encore une fois c'est luxueux quoi.
Qu'est-ce qu'on va dire ?
Alors juste pour faire peut-être en écho du travail de Peter Verrest, peut-être que Ludovic va vous lire. Et oui, c'est Ludovic qui va s'y coller aussi.
Bon.
Le premier ? Le premier ?
C'est le premier ?
Oui, c'est le premier, c'est
ah,
le début.
Tout ça ?
Non, pas tout ça, c'est le
c'est
premier.
C'est énorme.
Ouais, ouais. Voilà. Ou tu veux que je lise peut-être ?
Non, pas du tout. Non, on va faire juste un petit... c'est pour vous. C'est pour vous. C'est-à-dire, c'est pour vous... juste deux petits exemples. On peut faire les deux la suite, d'ailleurs, si on veut. Deux petits exemples pour vous, juste pour vous indiquer, au fond, ce qu'il y a en moins, ce qu'il y a en plus. C'est-à-dire, comment, à des moments... Verhelst contracte considérablement, et comment à des moments au contraire, quelque chose qui est contracté dans la pièce de Shakespeare, paf, il va ouvrir, il va faire un gros plan dessus et il va s'en emparer, et là au contraire il va lui travailler et développer quelque chose. Donc je dis, vous le connaissez, je vais le lire un peu vite, c'est le début de Richard, le premier monologue. Voilà. Donc Richard, donc scène 1, acte 1, c'est impressionnant. Or, voici l'hiver de notre déplaisir changé en glorieux été par ce soleil d'York, et tous les nuages qui menaçaient notre maison ensevelis au sein profond de l'océan. Voici nos fronts, parés de couronnes triomphales, nos armes ébréchées suspendues en trophées, nos austères alarmes changées en guerre rencontre, nos marches redoutables en pavanes exquises. Guerre, lugubre masque a déridé son front, et désormais, au lieu de chevaucher des coursiers harnachés pour effrayer les âmes d'ennemis timorés, il fait le lest et le cabri dans le boudoir d'une dame au son lascif et langoureux d'un luth. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces folâtres jeux, ni fait pour courtiser un amoureux miroir, moi qui suis marqué au sceau de la rudesse et n'ai pas la majesté de l'amour, pour m'aller pavaner devant une impudique nymphe minaudière, moi qui suis tronqué de nobles proportions, floué d'attrait par la trompeuse nature, difforme, inachevé, dépêché avant terme dans ce monde haletant à peine à moitié fait, si boiteux et si laid que les chiens aboient quand je les croise en claudiquant, eh bien moi, en ce temps de paix à l'anguille et à la voix de fausset, je n'ai d'autre plaisir pour passer le temps que d'épier mon ombre au soleil et de fredonner des variations sur ma propre difformité. Et donc, si je ne puis être l'amant qui charmera ces jours si beaux par l'heure, je suis déterminé à être un scélérat et à haïr les frivoles plaisirs de ces jours. J'ai tramé des intrigues, de perfides prologues, grâce à des prophéties d'ivrognes, des libelles et des rêves, pour dresser mon frère Clarence et le roi en haine mortelle l'un contre l'autre. Et si le roi Édouard est aussi franc et droit que je suis rusé, fourbe et traître, aujourd'hui même, Clarence sera bouclée, d'après une prophétie qui dit que G, des héritiers d'Édouard, sera le meurtrier. Plongé, pensée au fond de mon âme, voici Clarence qui vient. Voilà. Donc ça, c'est le début de la pièce de Shakespeare.
Enfin, l'avenir peut commencer. Des années durant, la grêle nous a tourmentés jusqu'à couvrir le pays tout entier. Des œufs aux jaunes rouges. Nous étions couverts de meurtrissures, lentes à se désassimiler. Une vague démangeaison pendant les nuits d'orage. Cicatrices en forme de chenilles dissoutes dans la chair. Nous regardons le soleil couchant s'épancher dans la mer étale. Enfin le silence. Le commencement du nouveau monde. Le nouveau soleil qui se lève. Jamais autant de rêves qu'aujourd'hui n'ont attendu leur accomplissement.
Voilà. Donc ça, c'est le premier monologue, en fait. C'est-à-dire qu'il a, pris le monologue que je vous ai lu, puis il a... Voilà. L'autre exemple qu'on voulait vous donner, on le fait maintenant ou...
Peut-être, oui.
Ouais.
Mais ouais.
Pour vous indiquer l'inverse.
C'est là ? Ouais. Donc c'est la duchesse, la mère de Richard III, dans le texte de Shakespeare. Ô funeste vent de détresse, ô mon ventre maudit, lit de mort, tu as couvé et mis au monde un basilic dont l'œil, si on ne l'évite pas, est meurtrier.
Voilà. Et Vérès a fait. Ça, c'est ce qui ouvre la pièce, c'est le début de la pièce. Donc avant le petit monologue que Laurent vous a lu. La duchesse. Je ne sais plus ce qu'est dormir, comme si jour et nuit en moi s'attisait un éclat de charbon, noyau ardent qui lentement, très sûrement, prend flamme. Je suis mon propre combustible, le feu me ronge goulûment. Exilé du sommeil par une sensation étrange entre démangeaison et douleur, grattement d'ongles, ou alors la douce mastication de quelque chose sur ma chair, là, en dedans. Ainsi l'ai-je guetté. Pourtant, je l'avoue, j'ai tout fait, tout tenté pour me délivrer de l'enfant, mais en vain. Toutes les choses innommables, chaque exorcisme et le moindre poison, rien n'y a fait. Au contraire, l'enfant n'en est devenu que plus robuste. Il se nourrit du poison. C'est ma faute, ma très grande faute. Que je pose les mains sur mon ventre, le voilà qui fuit en nageant mes chaudes mains. Décharné, roué de coups, abruti par le manque de sommeil et le remords, à peine en état de le nourrir, lui, l'enfant, épuisé, laminé, rongé jusqu'à me vider. On a décidé dans l'intérêt de l'enfant et de la mère de l'enlever avant l'heure, de m'épargner la naissance. Je suis trop faible, l'anesthésie est impossible, mon angoisse vaudrait bien l'anesthésie. Je vois un couteau, un trait rouge qui jaillit, je sens un cri naître en moi, qui ne se découvre pas d'issue. Désormais, ce cri en moi est pétrifié. L'enfant paraît, les pieds en premier, comme s'il sautait hors de moi, mais il saute, et c'est pour s'éloigner. À peine si je l'ai vu, un éclair. Je crois qu'il est mort.
Je pleure, mais je me sens soulagé. Ma faute, ma très grande faute. Enveloppé dans un petit drap remonté jusqu'au front, je regarde de tous mes yeux et tends les bras. Mon enfant mort, dis-je. Et il se met à bouger. À toute vitesse, on l'emporte, mais pas assez vite. J'ai vu un nourrisson avec toutes ses dents. Il me regarde. L'espace d'un instant, son regard me traverse. De part en part, il rit, mais je ne vois que ses dents. Un éclair. Ce qui va le dévorer, ce qui va nous dévorer. Voilà. Voilà. C'est juste... Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais... Donc, deux exemples qui vous montrent... Voilà. Vous avez compris que... À un moment, et là, pour le coup, il raconte. Donc la mère se raconte, elle vient comme ça, et elle se raconte, elle raconte cet accouchement. Et... Voilà. Petite chose sur la, pour changer un peu de sujet, de, sur la distribution, donc, puisqu'elle est faite pratiquement, donc peut-être je peux vous parler des acteurs un tout petit peu, et de l'équipe. Pour ceux qui étaient venus voir la Fairy Queen et la pièce de Gertrude Stein qu'on avait fait au Tinéa de la Chartreuse, j'ai réuni les deux équipes, enfin à quelques exceptions près, puisqu'il y a donc Laurent Ferrichard. Ce sera Valérie Dashwood qui faisait la fée dans Fairy Queen, si vous l'avez vu, qui fera Lady Anne. Il y a Camille Panonacle qui était dans la pièce de Stein qui fera Elisabeth. Il y a Camille fera Margaret, pardon. Christelle Tual fera la reine Elisabeth. Antoine Agnolt, j'ai dit la voix. Donc ça, ce sont les acteurs que vous aviez déjà vus si vous avez vu Fairy Queen et la pièce de Stein. Il y a Edith Cobb qui viendra faire la duchesse. Un acteur qui était celui qui avait lu la pièce quand on avait fait les lectures à Avignon il y a 2 ans, qui sortait donc de l'Irak, l'école de Cannes, qui s'appelle Samuel Réau, qui fera Loyal. Et Pierre Beau, qui fera le Buckingham, ainsi que, a priori, Jeffrey Carey, qui fera Hastings. Voilà pour l'équipe d'acteurs. Et puis, voilà, c'est l'équipe habituelle, sinon, avec qui je travaille, moi. Je fais le décor avec Antoine Vasseur, qui avait fait la scénographie aussi pour les deux pièces que vous aviez pu voir. Il y aura David Bissonaritz, qui fait la musique et le son. Voilà, et peut-être encore d'autres intervenants, mais pour l'instant, voilà pour l'équipe. Donc, voilà, c'est aussi, moi, ma manière de travailler, c'est-à-dire que je ne pars pas à chaque fois de zéro, je ne pars pas d'une distribution à faire, d'une équipe à réunir comme ça, de manière orpheline, mais chaque travail après travail, voilà, ce sont les mêmes ou d'autres qui arrivent et qui se joignent à nous, mais c'est un travail qui se fabrique comme ça, de pièce en pièce, et qui nous permet d'élaborer ensemble les choses, de nous confronter à d'autres écritures, mais en ne perdant pas le fil du travail, en ne perdant pas le fil de nos réflexions, et en remettant comme ça, à chaque fois, en question... les éléments de travail tout en continuant les choses. Par exemple, là, comme je voulais un peu raconter tout à l'heure, il y a un gros travail sur le son qui va être fait. D'une part parce que je vais continuer ce travail sur la voix, et donc sur la voix, sur le son de la voix, et sur éventuellement des déformations sonores. Donc travail que j'avais entrepris déjà avec le colonel Desoies il y a longtemps. Mais aussi effectivement la voix dont je vous parlais, c'est-à-dire cette voix au chant qui sera probablement accompagnée de son, c'est-à-dire du son. Produit en réel probablement des exactions produites, enfin conséquences de des décisions ou des actes de Richard III, et puis de la musique, puisque le texte en lui-même a quelque chose d'assez musical, mais ça peu importe, enfin, les belles écritures le sont toujours, mais Verrels propose une utilisation de la musique. Par exemple, là c'est intéressant comme ça travaille à l'intérieur du texte. Par exemple, le texte que je viens de vous lire s'appelle Le Chant de la mère, duchesse. Ensuite, il propose comme ça l'utilisation d'un morceau de Vivaldi, qui sera pas forcément ça, mais il propose comme ça des interprétations musicales, il propose des danses. Donc, c'est la musique parcourt comme ça le travail, donc on la traitera. Donc, tout ça fera aussi un important travail sonore, dispositif sonore, et j'y reviens encore une fois sur ce fameux hors-champ, c'est-à-dire tout ce qui est entendu en temps réel de des conséquences des actes de Richard ou de sa pensée, voilà. On est en train là de travailler sur la scénographie. Que vous dire si ce n'est que donc je travaille effectivement sur ces plans, ces différents plans, c'est-à-dire de l'intimité et de la parole politique, de la parole publique. Donc on essaie de travailler cette question-là, effectivement, de qu'est-ce que c'est qu'un lieu de pouvoir aujourd'hui, comment il est représenté, c'est-à-dire que depuis Shakespeare jusqu'à nos jours, au fond, qu'est-ce qui nous est donné à voir de ça, de ce lieu, en plus là particulier, puisqu'il brasse l'intime et le public en même temps. Donc c'est ça qui est un peu, qui est passionnant et en même temps complexe, c'est-à-dire que c'est comme si, on sais pas, on faisait une coupe de l'Élysée ou de la Maison Blanche ou je ne sais quoi, et que à la fois, on voyait à la fois le perron de l'Élysée avec la conférence de presse, en même temps derrière les intrigues politiques, et en même temps derrière des choses qu'on n'a pas le droit de voir non plus, des choses plus intimes, liées au sexe, ou liées à je ne sais quoi. C'est-à-dire que c'est comment donner dans le même temps à voir, finalement, tous les plans. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'on est en train de chercher. Et qu'on puisse voir tout en même temps. Puisque c'est ça que propose la pièce, finalement. Donc c'est pas masqué, c'est pas voilà, on a tout en même temps. C'est-à-dire qu'au fond tout ce que nous devinons et tout ce que nous percevons dans ce qu'on nous donne à entendre de la réalité, là en bas, ça doit être vu d'une certaine manière. Donc on essaie de trouver ça, voilà. Donc ça sera un palais ouvert à la fois dans son intimité et dans sa représentation. Voilà. Donc on est en train de travailler là-dessus et on va construire le décor au mois d'avril-mai, voilà. Le spectacle se fera comme ça, voilà. On continue à lire un petit peu. Tu veux que je lise un peu le Benjamin ? Là, je vous ai amené juste pour vous, je vais un des textes référents parce que je travaille avec une équipe et puis quand on travaille, on regarde plein de choses, voilà. Par exemple, ça c'est l'œuvre d'un artiste allemand qui s'appelle Gerhard Richter, qui me sert beaucoup en ce moment pour réfléchir au costume, à un certain esprit du travail. Comment on peut représenter aujourd'hui le pouvoir, de cette manière. Donc, dans quel luxe, dans quelle déformation de ce luxe, dans quel monde on est, voilà. Donc je cherche des images, des peintures, des photos, on brasse plein de choses. Et puis évidemment des textes qui nous servent à alimenter le travail, à mieux comprendre tout ça. Et là on a trouvé, c'était une des premières choses avec Marion Stoufflet, un texte de Walter Benjamin, qui est dans les complètes. Voilà. Il y a un chapitre de Benjamin qui s'appelle « Le caractère destructeur ». Puisqu'il s'agit bien de ça finalement, ce Richard III. Que ce soit la pièce Shakespeare ou ce texte-là, il s'agit bien de destruction. C'est un processus puissant de destruction. Donc je vais vous lire juste ça. Le caractère destructeur ne connaît qu'un seul mot d'ordre, faire de la place. Qu'une seule activité, déblayer. Son besoin d'air frais et d'espace libre est plus fort que toute haine. Le caractère destructeur est jeune et enjoué. Détruire, en effet, nous rajeunit, parce que nous effaçons par là les traces de notre âge, et nous réjouit, parce que déblayer signifie, pour le destructeur, résoudre parfaitement son propre état, voire en extraire la racine carrée. À plus forte raison, on parvient à une telle image apollinienne du destructeur lorsqu'on s'aperçoit à quel point le monde se trouve simplifié, dès lors qu'on le considère comme digne de destruction. Tout ce qui existe se trouve ainsi harmonieusement entouré d'un immense ruban. C'est là une vue qui procure au caractère destructeur un spectacle de la plus profonde harmonie. Le caractère destructeur est toujours d'attaque, indirectement du moins. C'est la nature qui lui prescrit son rythme, car il doit la devancer, faute de quoi elle se chargera elle-même de la destruction. Le caractère destructeur n'a aucune idée en tête. Ses besoins sont réduits. Avant tout, il n'a nul besoin de savoir ce qui se substituera à ce qui a été détruit. D'abord, un instant du moins, l'espace vide, la place où l'objet se trouvait, où la victime vivait. On trouvera bien quelqu'un qui en aura besoin sans chercher à l'occuper. Le caractère destructeur fait son travail et n'évite que la création. De même que le créateur cherche la solitude, le destructeur doit continuellement s'entourer de gens, témoins de son efficacité. Le caractère destructeur est un signal. De même qu'un repère trigonométrique est exposé à tout vent, il est exposé à tous les racontars. Vouloir l'en protéger n'a pas de sens. Le caractère destructeur ne souhaite nullement être compris. Le caractère destructeur est l'ennemi de l'homme en étui. Ce dernier cherche le confort dont la coquille est la quintessence. L'intérieur de la coquille est la trace tapissée de velours qu'il a imprimée sur le monde. Le caractère destructeur efface même les traces de la destruction. Le caractère destructeur rejoint le front des traditionalistes. Certains transmettent les choses en les rendant intangibles et en les conservant. D'autres transmettent les situations en les rendant maniables et en les liquidant. Ce sont ces derniers que l'on appelle les destructeurs. Le caractère destructeur possède la conscience de l'homme historique. Son impulsion fondamentale est une méfiance insurmontable à l'égard du cours des choses et l'empressement à constater à chaque instant que tout peut mal tourner. De ce fait, le caractère destructeur est la fiabilité même. Aux yeux du caractère destructeur, rien n'est durable. C'est pour cette raison précisément qu'il voit partout des chemins. Là où d'autres butent sur des murs ou des montagnes, il voit encore un chemin. Mais comme il en voit partout, il lui faut partout les déblayer. Pas toujours par la force brutale, parfois par une force plus noble. Voyant partout des chemins, il est lui-même toujours à la croisée des chemins. Aucun instant ne peut connaître le suivant. Il démolit ce qui existe, non pour l'amour des décombres, mais pour l'amour du chemin qui les traverse. Le caractère destructeur n'a pas le sentiment que la vie vaut d'être vécue, mais que le suicide ne vaut pas la peine d'être commis. Voilà. C'est un peu... Alors c'est intéressant ce texte, parce que ça éclaire effectivement sur cette chose que Benjamin appelle le caractère destructeur, et qui est très présent vraiment dans la pièce, dans la mesure où, encore une fois, comme elle est très épurée de tout contexte, enfin bien davantage que la pièce de Shakespeare, elle est vraiment mise en évidence dans le trajet comme ça, rapide et une très grande violence de ce Richard-là. Voilà. Et puis, bah, peut-être pour finir, on va lire du coup le...
C'est vrai que juste pour rajouter sur la structure même de Vérès, mais ça, on ne sait pas encore effectivement comment ça va être traduit, mais sur ce fameux statut de la voix, comme il met, qui donne des informations très courtes, très efficaces sur Clarence est mort, la foule est dans la rue, enfin des choses comme ça. Ça fait penser également, c'est comme s'il avait réussi, c'est comme s'il réussissait à traduire poétiquement cette chose qui me fascine toujours, c'est quand il y a les informations, par exemple sur CNN, où on a une information et en même temps on a toutes les autres infos qui passent en dessous, c'est-à-dire qu'on a à la fois un focus fait sur ce qu'on doit nous raconter, mais en même temps on dit, mais attention, vous savez, il se passe plein de choses en ce moment, et qu'en fait on a cette capacité à lire tout en même temps, et comme si on arrivait à tout digérer en même temps, et comment en même temps cette information qui passe en dessous nourrit ce qu'on est en train de voir, quoi. Des informations qui peuvent être totalement contradictoires, Ségolène Royal vient d'avoir 3 enfants, enfin, puis en même temps il y a le charnier de... Bon, c'est cette chose qu'il arrive à traduire, non pas d'un point de vue purement dénonciateur qui serait... mais poétiquement, quoi. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est une de ses forces. Voilà.
Peut-être. Que fait-on ?
Ben, peut-être, on va terminer peut-être en lisant...
Oui, absolument.
Voilà, c'est...
Finir le dernier grand monologue de Richard.
Voilà. Pour la première fois. Première mondiale. Première mondiale, hein. C'est comme on dit, je sais pas, à l'opéra ou je sais pas, n'importe quoi. C'est chic, vous y êtes, hein.
Première sortie en ville, là.
Je fais un rêve. Les branches bourgeonnent. Des centaines, des milliers de roses prêtes à fleurir. Une rougeur qui passe sur la gorge de l'épousé. Voilà mon rêve, mon espoir, ma foi. Après la tempête de fleurs, la récolte, l'abondance, les branches rouges de gouttes, gonflement, le baiser boursouflé. Je fais un rêve. Il y a un ciel d'un bleu acier. Il y a un soleil resplendissant. Il y a des champs de fleurs qui ondulent. Il y a un verger. Je fais un rêve. Des avions en formation, le vrombissement, la nuée d'insectes, dissémination. Il rampe dans les arbres et dévore les branches, déterre les racines, se régale de tout ce qui s'était niché dans les cimes, se jette sur les fruits et les blés, aspire les graines des épis, dévalise les mers, la colonne, la prolifération, le grouillement, l'abdomen mouillé de gouttes, des œufs pourvus de bras et des jambes, rongeantes larves, un pullulement. Sur leur thorax, des noms indéchiffrables. Sur leur front, un blasphème. Pourquoi, père, m'as-tu abandonné ? Armé de ciseaux à la place de doigts, la colonne en furie attaque un arbre après l'autre, se cramponne, perforation de la chair à travers les entrailles, y compris peau et poils. Je fais un rêve. Dans tout le paysage, ils sont là qui s'envisagent, placent délicatement les bras le long du ventre, gonflement, seins douloureux, nausées, jusqu'à l'éclatement, s'accroupissent quand l'heure est venue, se délestent. Je fais un rêve. Les enfants halètent entre les jambes de la mère, remuent en grelottant, les bras montant et descendant comme des ailes. Leurs bras remplissent l'air, un bourdonnement des seins, les bras montant et descendant. Ils bondissent, se cramponnent au cou du père, se creuse un endroit dans le flanc de la mer, les bras montant et descendant, tête tout leur sous, abreuvés, écarlates, ils se dressent, flamèches, chant, tournés vers le ciel, le nuage en route vers un nouveau soleil. Je fais un rêve, baptisé dans la lumière, lavé par le soleil, l'homme nouveau, l'épouser en sa robe de blancheur immaculée. Fidélité, honneur. Je fais un rêve. L'épousée tournant le dos à l'époux, elle porte les mains à la tête, la main de l'époux qui se tend vers le voile du temple se déchire, la main qui pose le voile sur la tête de l'épousée, la griffe de l'époux, la tête inclinée de l'épousée, les cheveux tombant sur le visage, la main qui dégrafe la robe, l'épousée d'une blancheur de lait, la main qui se tend vers le visage incliné de l'épousée, la main qui d'une caresse écarte les cheveux, le sourire de l'époux, le soleil dans les yeux, l'épousée lui prend la main, elle le pose et la pose sur son ventre, il sent que cela bouge, le fourmillement sous-cutané, des ciseaux à la place de main, un bec au lieu d'une bouche, l'épousée qui pose le couteau dans la main de l'époux, le bourdonnement qui s'amplifie sous la peau, la main de l'époux qui pose le couteau sur le ventre de l'épousée. Je fais un rêve. Par mont et par vaux, par les chemins, enduits de salive ou de colle ou de bile, en essaim, ils fondent sur moi, formation qui perce les nuages et continue leur piquer vers moi, un blizzard d'insectes, de la tête aux pieds, cuirasse pullulante, toute la misère du monde, toute la douleur, je vous délivrerai de vos péchés pour m'en ceindre les épaules, je passerai des marais, point toujours humain, me mordrai à travers les rochers, à travers des montagnes de chair, à travers tout ce qui vit, ne vit pas, je ne manquerai de rien, dans de verts pâturages, auprès des eaux reposantes, par les vallées des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, par les monts et les plaines, m'extraire de l'avalanche en me traînant par les cheveux, me dévorer à travers les rochers, à travers des montagnes de chair. Plus vite, voici que vient l'épousée, sur la pointe des pieds, grimpant de conserve avec sa voix, se tirant par les cheveux jusqu'à ce que ses pieds se détachent du sol, les mains impuissantes dans l'air. La voici. Enfin, contre ses paumes s'immobiliser, l'étreinte, les mains autour de mes tempes, sur ma joue, le baiser sur mon front, le cœur à mon oreille, sa voix. Ce moi enfin révolu, tout étant révolu, ce tout enfin, et nous à tout jamais libres, pour de bon, Dieu merci, pour toujours libres.
parlé de la scénographie tout à l'heure. L'Union a largement pris le terme lieu, donc le lieu qui est prévu pour le spectacle.
Je passe la parole à Vincent Baudrier, Hortense Archambault. Que dire, Vincent ? Pas si j'ai le droit de le dire. Donc c'est pas...
Ludovic Nagarde a demandé de créer le spectacle dans le cloître des Carmes et il créera le spectacle dans le cloître des Carmes.
Yes. Voilà, donc, puisque Vincent l'a dit, donc, oui, absolument, absolument. Oui, c'est très important. Donc on est venu là faire un repérage déjà. Moi, je connais les Carmes depuis très longtemps, mais moi, c'est le premier lieu. Je suis venu au festival il y a bien sûr des années de ça, donc j'avais. Moi, c'est le lieu où je voulais jouer. Voilà, j'y suis très attaché, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, je veux dire, c'est juste le plus beau, quoi. alors voilà, moi, ça me touche beaucoup d'y être, c'est là que je pensais qu'il était juste de le faire, j'avais très envie, et Vincent et Hortense ont été OK pour qu'on le fasse là. Et évidemment, bien sûr, on part du lieu pour faire la scénographie. Vous me diriez, on pourrait presque le faire sans rien. C'est tellement le lieu... shakespearien par excellence, il y a même la tour, si vous regardez bien, hein, par la cour, il y a une tour, ça pourrait être la tour de Londres, il suffit de s'en servir, donc non, c'est vraiment un endroit idéal, mais bien sûr, on s'inspire du lieu, de ses arches, de l'architecture, on étudie tout ça, et pour inscrire vraiment la scénographie dans le lieu, pour installer in situ une scénographie qui tienne compte du lieu, bien sûr. En tout cas, c'est très bien. Oui. Madame parlait de la traduction. Oui, moi j'ai trouvé ça extrêmement bien traduit. Alors c'était intéressant parce que comme l'auteur Verest a été traduit par plusieurs personnes justement en français, moi je lui ai dit que vraiment je trouvais ça formidable. Il y a quelques peut-être terminologies un peu trop sophistiquées dedans. Donc je vais probablement essayer de dialoguer un tout petit peu avec lui. Mais je trouve, si vous le trouvez, moi aussi en tout cas, je trouve ça vraiment très très bien traduit. Ouais. Je sais pas qui il est en fait. Je l'ai pas rencontré encore. On l'a dialogué par un échange de mails, mais je le connais pas. Mais je crois qu'il a fait un très beau travail. Ouais. Ouais. Ouais, parce que c'est à la fois, c'est vrai, c'est un vrai langage poétique, mais très concret. C'est ça qui fait penser à Jack Spicer un peu. Il y a un truc de poésie concrète, objective américaine un peu. Enfin, il y a quelque chose de très voilà. Il n'y a pas de fioritures, c'est une poésie très matérielle, très concrète. J'espère qu'il viendra d'ailleurs probablement au festival, le traducteur. Peut-être oui. Christian Marcipon. Pardon.
Une question mais qui s'adresse pardon. Plutôt à l'auteur, mais j'aimerais bien connaître...
Il n'est pas là ? Oui, pardon.
Votre opinion là-dessus. Ouais. N'y aurait-il pas une certaine malice à enlever toute référence à Shakespeare, c'est-à-dire le titre, par exemple, ne pas en parler et laisser le spectateur découvrir
ouais.
qu'il s'agit en fait
d'un Richard, ouais.
d'un Richard III,
ouais.
avec ce petit plaisir, vous savez,
ouais,
des gens qui ont
ouais.
une certaine culture, de dire « Oh, je reconnais ça
ouais. ». Bon.
Et d'autre part, ne risque-t-on pas d'être gêné par cette comparaison en voyant ouais. la pièce, d'attendre peut-être des moments forts de Richard III qui n'y sont
ouais.
peut-être pas, ou
ouais.
qui y sont, et d'être un peu pollué par ça. Et alors.
Pollué, vous y allez
pollué.
Fort.
C'est énorme.
C'est un peu comme quand on ouais. va voir un film adapté ouais. d'un roman, qu'on ouais. connaît bien le roman, et qu'à tout moment, on cherche des références au roman. Et ça peut gêner dans la vision de la chose. Alors, ça, ce serait aussi un parti pris de mise en scène. De cacher un peu ce qui est en fait shakespearien, puisque vous avez parlé de Shakespeare en toile de fond, mais les textes que vous avez lus ne font pas vraiment penser à Shakespeare. Si on les écoute sans savoir, je suis
oui,
sûr qu'on pense
oui, bien sûr,
à Shakespeare.
Oui.
Alors je voulais connaître votre opinion là-dessus. Vous avez adhéré tout de suite à ce que l'auteur a voulu faire, de,
ouais.
de
enfin,
dire qu'il s'agissait de Shakespeare. Et...
Mais je ne sais pas si le mot adhérer est le bon, parce que justement, ce qui est intéressant, et peut-être effectivement, c'est beaucoup moins dans la tradition française, parce qu'encore une fois, là, Laurent parlait des Flamands, parce que eux, chez eux, c'est effectivement une nécessité de revisiter les grands classiques, parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes. Donc ça, c'est une chose, mais c'est aussi dans la tradition allemande. Encore une fois, quand je parlais d'Heiner Müller, qui refait un Médée, qui refait un Hamlet, qui refait tout ça, ça vient aussi d'une tradition de la dramaturgie. C'est-à-dire que le théâtre, c'est pas forcément un endroit où on découvre, c'est un endroit aussi où on revisite. C'est un endroit dialectique, où, effectivement, on convoque les spectateurs à une relecture, à une mise en critique, à un point de vue différent, à dialectiser, à converser, au fond, entre le passé et notre époque, entre les anciens textes et la nouveauté, entre... Voilà. Effectivement, les points de comparaison ne me gênent pas, dans la mesure où ça ne gêne pas non plus l'auteur du tout. Et encore une fois, justement, ce qui me semble intéressant, c'est la perspective. C'est de pouvoir effectivement entendre ce texte, en voir sa représentation, avec effectivement à côté la pièce de Shakespeare. Et cet écart-là est intéressant. Et moi, je pense pas qu'il faille justement s'en méfier ou rivaliser. On peut rivaliser avec Shakespeare, serait aberrant. Mais au contraire, moi, ça m'aide beaucoup justement d'avoir les deux textes pour révéler justement ce qui est intéressant de dire aujourd'hui dans notre monde contemporain, et que une pièce du répertoire ne peut plus tout à fait dire ou dire autrement, et qu'est-ce que ça peut ajouter, qu'est-ce que ça peut modifier dans notre perception. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, je pense qu'au contraire, il faut que ça dialogue, et que l'un ne chasse pas l'autre, et qu'il n'y a pas de rivalité, vous voyez ce que je veux dire. Au contraire, s'il y avait rivalité, je pense que l'auteur aurait appelé ça autrement, il aurait beaucoup plus masqué les choses. Or lui, non, c'est pas du tout son point de vue. Lui, il accepte complètement cette notion d'écriture, de réécriture, d'inspiration, et que ça dialogue. Voilà. Ce qui peut justement permettre, moi j'entendais là, le monologue, c'est la première fois que je l'entends. Puisque moi je ne l'ai que lu, moi, ou fait avec d'autres, enfin, la première fois que je l'entends, le dit par Laurent. Et où me frappait tout d'un coup, cette idée, au fond, cette question de la pureté, quoi. Alors évidemment, Shakespeare en parle, parce que Shakespeare parle de tout. Maintenant, là, on l'entend de manière beaucoup plus contemporaine. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose du terroriste qui va se cracher, quoi. Il y a quelque chose de l'idée de la pureté, du paradis qu'il va trouver, de l'acte suicidaire, mais complètement transcendé, insensibilisé, de la dernière prière. Il y a quelque chose de très frappant là-dedans, et encore une fois, et de la question, parce que je crois que c'est une question très importante dans la pièce et dans le traitement qu'il en a fait, de la question de la pureté. C'est-à-dire, au nom de quoi aujourd'hui on parle de pureté? Méfions-nous de la pureté. Non, mais vraiment, c'est-à-dire qu'évidemment, que ce soit évident, exacerbé dans les fondamentalismes religieux ou dans les idéologies, ce qu'il en reste de radical, mais aussi dans des choses qui viennent plus près de chez nous, et qui sont pas loin d'ici, et qui sont en France, et qui continuent à nous parler de pureté. Et là, je l'entendais très fort. Alors, bon, encore une fois, Shakespeare en parle très bien aussi, mais là, en l'occurrence, il y a un effort supplémentaire, il y a une vitesse supplémentaire, il y a une immédiateté supplémentaire, quand j'entends ça, moi, et qui me renvoie immédiatement à notre monde à nous. Voilà. Donc c'est... Mais encore une fois, il n'y a pas de rivalité, je crois. Moi, je m'en méfie pas. Quoique un cheval... Juste un cheval, comme ça, dans le... Au Carme, ça serait beau, hein. Un cheval en liberté, qui irait comme ça, de...
Ouais, puis juste pour rebondir sur la comparaison d'un... ce qu'on y cherche, enfin, un livre qui est adapté au cinéma, souvent, la déception, c'est... je trouve qu'il se place pile à l'endroit, si on garde cette comparaison-là, où je pense que les plus belles traductions des romans au cinéma sont les plus grandes trahisons. Donc, d'une certaine manière, lui ne se pose même pas la question de relater ou de réécrire, c'est qu'il fait carrément une autre œuvre, mais simplement avec la mémoire de celle de Shakespeare. Et que, quand même, le théâtre, c'est qu'une histoire de mémoire aussi.
Plus que la mémoire, hein. Plus que la mémoire. Juste en parlant, parce que quand on travaille vraiment le texte, on se rend compte à quel point il a compris la pièce, il en prend le suc dramaturgique et qu'il reformule les choses. Hein. Mais il a vraiment digéré la pièce de manière assez incroyable.
Donc oui, ce qu'il en garde, c'est.
C'est plus que la mémoire, hein. C'est vraiment un travail sur de la dramaturgie. C'est-à-dire que c'est un. Vrai travail théâtral.
Après, c'est plus sur la. Ouais, je parlais plus de la mémoire par rapport quand on est spectateur. Moi, qu'un spectacle me fasse remémorer, je sais pas, moult lectures, moult mises en scène. Je veux dire, c'est le principe du théâtre. Je veux dire, particulièrement au Festival d'Avignon, dire jouer ce type de pièce. Et justement, c'est ça qui me plaît. Je crois, je ne suis pas sûr. Le mec est super. Qui se la pète. Je crois que j'aurais pas accepté. Enfin, jouer par exemple pour moi Richard III de Shakespeare à Avignon, je crois que j'aurais pas pu le faire tellement J'ai eu un choc, moi, quand j'ai vu Ariel Garcia Valdez comme acteur. Comme j'étais même pas acteur, j'étais jeune homme qui rêvait de faire du théâtre. Je crois qu'il y a un endroit où je sais pas, j'aurais pas eu envie de toucher à ça. Mais là, par contre, de l'aborder sous cet angle-là, là, c'est carrément merveilleux, quoi. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est les choses vont se stratifier toutes seules. Et je trouve que c'est assez plaisant quand t'es spectateur d'avoir toutes ces strates hein, qui vont au-delà même de...
Et on pourrait dire quelque chose, parce que c'est, je réfléchis en écoutant Laurent, et pour vous répondre aussi, ce qui me semble aussi peut-être pas mal, c'est que à chaque fois qu'on remonte des grands textes du répertoire, en tout cas ça a été comme ça très à la mode, je dirais, enfin très très d'actualité les 20-30 dernières années, on les a beaucoup trempés dans des bains contemporains, vous voyez. C'est-à-dire, on va faire un Richard III chez les nazis, on va faire... Vous voyez ce que je veux dire? Pour donner une actualité, au fond, aux anciens textes. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais eu vraiment plaisir à voir. C'est-à-dire, je comprends pas. Ça, c'est moi. Hein. Je suis pas dans la surinterprétation des textes. C'est-à-dire que, voilà. Mais par contre, alors, ça qui est intéressant, c'est que du coup, cette pièce-là, au fond, va me permettre, moi, de traiter Richard III dans la modernité, enfin, dans notre monde contemporain, sans avoir justement à me dire, ah bah tiens, ça va se passer là dans les années 50, ou dans les années... Vous voyez ce que je veux dire? Ou à l'époque nazie, ou dans un autre type de dictature. C'est-à-dire que je vais pas être obligé de le traiter. Vous voyez ce que je veux dire? Sans faire non plus, évidemment, à moins que je fasse un travail d'époque. Mais donc là, c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi. C'est-à-dire que je peux amener ça chez moi, dans mon travail, directement, avec les acteurs avec qui je travaille, dans mon esthétique, avec mes formes à moi, et en même temps... Je dialogue avec le passé, je dialogue avec Shakespeare, je dialogue avec l'histoire du théâtre, avec donc ça, voilà. Mais je pense plus à un dialogue qu'à une rivalité, encore une fois.
Là, je comprends tout à fait ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mm-hmm. Ma question, simplement, c'était, est-ce bien nécessaire de le dire au départ?
Ah! Vous vouliez qu'on masque tout, en fait, qu'on dise, oh, ok.
Richard II, par exemple.
Ok, on arrête tout, on recommence. Okay.
Richard II.
Vous ressortez tous.
Bernard III.
On appelle ça, Édouard, ou Édouard, ou je sais pas.
Bernard III, par exemple. Bernard III.
Non, mais ceci dit, vous, c'est une bonne question, parce que.
Et c'est tout.
Oui.
C'est avec une petite malice.
C'est vrai, c'est vrai.
Qu'on induit la chose.
Non, mais vous avez raison.
Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit.
Non, vous avez raison. Ah, pardon, alors j'ai.
Voilà, ma question, c'était ça. Pourquoi on parlait immédiatement, au départ.
Parce qu'on se sent coupable, vous savez, toujours. Hein,
c'est... Bah oui, non, mais on peut laisser les gens libres. Hein,
non, mais vous savez, c'est vrai. Non, il se trouve que quand on a reçu le texte, il s'appelle Richard III. Alors après, il y a un sous-titre, c'est « J'ai passé des marais et point toujours humain ». On aurait pu l'appeler comme ça. « J'ai passé des marais, mais point toujours humain ». En même temps, ça s'appelle Richard III. Alors j'ai dit, bon, on va l'appeler Richard III. Mais vous avez raison, je suis d'accord avec
c'est
ça.
C'est pour
moi.
Ça que c'est une question pour l'auteur.
Je comprends bien.
Je pense que l'auteur serait intéressé par cette idée de l'appeler différemment et de...
Mais c'est probable, vous savez. C'est probable. Voilà. C'est probable. Mais pour trouver des coproducteurs et le vendre en tournée, c'est mieux de l'appeler Richard. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je vous ai dit ça, je vous ai rien dit. Hein. Voilà.
Je voudrais simplement poser une question à Monsieur Lagarde. Quelle différence y a-t-il entre le Lagarde de 2003 et celui de 2007? Dans ses rapports avec le public ou dans ce rapport avec les textes.
Waouh!
Il est beaucoup plus détendu, hein, vraiment. Incomparable.
Je vais parler de ma vie intime, ça. Mais écoutez, ça va. Dans mon rapport avec les textes, dans mon rapport avec le public, mon Dieu. Faut répondre vraiment. Je sais pas quoi vous dire vraiment. Le monde a changé. Par rapport aux rencontres. Ouais.
De maintenant ou de...
Non, mais elle est tellement énorme cette question. C'est, d'un coup, j'ai l'impression de devoir vous raconter toute ma vie en 2 minutes 30.
Non, mais c'est pas ça, votre
c'est,
vie.
C'est
pas
considérable.
Votre vie, je veux savoir.
Non, il se trouve que
en intervenant en 2003,
ouais.
Dans le cadre du festival.
Oui, 2004.
Ah, ouais. 2004. Vous êtes intervenu, vous avez fait des
Absolument.
Choix, vous avez fait des propositions.
Absolument.
Là, vous intervenez en 2007.
Ouais.
Dans un oui. environnement très spécifique.
Oui. Oui.
Est-ce qu'il y a une différence dans
l'approche de ça
dans l'approche de ce deux manifestations.
Voilà. Bah, c'est vrai que les projets sont pas tout à fait les mêmes. Là, on était, on venait pendant toute la durée du festival avec plusieurs spectacles. Donc, il y avait une démarche qu'on avait longuement mûrie avec Vincent et Hortense, c'est-à-dire de venir au festival présenter plusieurs choses, de rester un long temps de résidence. Donc, il y avait un état d'esprit qui était différent. Donc, une démarche peut-être un tout petit peu différente. C'est vrai aussi que c'était sur des textes très différents, c'est-à-dire que les textes de Cadio ou Gertrude Stein, c'est-à-dire dans la continuité d'un travail sur ces formes-là. Là, en l'occurrence, c'est peut-être presque un peu plus traditionnel comme démarche, au sens où, voilà, on vient montrer une création dans un des grands endroits, lieux emblématiques du festival. Voilà, donc c'est un tout petit peu différent, mais moi, je n'ai pas changé. Non, je suis le même. La chose, si vous voulez, juste la dernière, c'est que je n'ai pas créé de spectacle de théâtre depuis, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait de l'opéra, j'ai fait deux mises en scène d'opéra, et j'ai fait des ateliers. Je suis intervenu à l'école de Cannes où j'ai enseigné, j'ai transmis, essayé de transmettre des choses. Hein. Et puis j'ai préparé les projets. Et voilà. Donc j'ai un rythme un peu étrange, en fait. Je n'enchaîne pas les projets. J'ai du mal à me dire voilà, les prochains je monte ça et ensuite ça. Vous voyez, je suis pas. Et puis il se trouve que aussi la particularité, mais ça c'est bien de vous le dire, c'est que on a beaucoup tourné aussi depuis. C'est-à-dire qu'après le festival, on a joué à Paris au Théâtre de la Colline, Fairy Queen, on a repris le Colonel, on a tourné les spectacles, la pièce de Stein également, on a encore tourné. Là, on va reprendre encore Fairy Queen que nous avions créé en 2004, on continue une petite tournée encore là au mois de mars, on reprend le Colonel des Oies pour les 10 ans du Colonel des Oies et de la compagnie au mois d'avril. Donc vous voyez, en fait, on tourne les spectacles beaucoup. Et donc, ça fait une vie un peu différente. Et effectivement, bah voilà, les choses mûrissent, le monde change, et puis on écoute, on prend, on réfléchit, on se remet en question, et puis voilà. Après, c'est à l'épreuve d'un texte nouveau, d'autres problématiques, que la vérification de ces modifications, de où j'en suis, ou comment j'ai changé, ou comment à travers moi les choses ont changé, ben vont se vérifier dans le travail. Voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que, alors bon, je sais pas ce qui va changer, on verra.
Que sur le travail, enfin, ce qui est agréable, c'est la fidélité aussi. C'est vrai que quand Ludovic disait que ça a été un grand moment 2004 pour la compagnie, pour l'équipe d'acteurs, pour cette résidence d'un mois, d'avoir joué ces trois spectacles, ça a été une sorte de, pour le colonel, par exemple, il avait déjà presque 8 ans d'existence, 7 ans d'existence, mais ça a été d'un seul coup un coup de projecteur d'être ici, et puis d'avoir l'occasion de créer Fairy Queen, et puis Gertrude Stein. Enfin, c'était d'un luxe absolu de pouvoir d'un seul coup montrer le travail qui a eu un retentissement, qui nous a permis de poursuivre, et que le fait de revenir chargé de ça, c'est vrai que c'est agréable.
Peut-être juste aussi pour finir vous répondre, ce qui est important là pour moi, et je pense qu'il va être important, c'est effectivement un petit effet de maturité, entre guillemets, qui est que ce travail au long cours que j'ai mené avec Laurent, que j'ai mené avec quelques acteurs, là tout d'un coup, il va prendre plus d'ampleur. C'est-à-dire que là, il y a une troupe d'acteurs plus importante, faire se rencontrer ces acteurs-là, il y a une entente, il y a une compréhension, une amitié aussi pour beaucoup d'entre eux, qui fait que le travail va, je pense, prendre une dimension encore supérieure. J'espère une dimension particulière, et il va se passer encore des choses encore différentes. C'est-à-dire qu'il y a oui, il y a une complicité, en même temps un enjeu et une exigence de travail de ces acteurs-là, et en même temps une amitié qui se bâtit dans le travail, hein, qui j'espère va encore déboucher sur de nouvelles et belles expériences, peut-être plus amples, encore un peu plus assumées, un peu plus mûres, un peu plus voilà. Ça, je pense, j'espère en tout cas.
Normalement, ça s'accélère, les questions, on nous a dit là.
Ah non, mais les réponses doivent être vraiment.
Ah oui, les réponses doivent être plus courtes, en fait. C'est ça.
Oui, il existe à la Schaubühne en Allemagne un auteur qui s'appelle Falk Richter et qui s'est assigné comme objectif de mettre à nu les mécanismes du pouvoir, en fait. Et comment se situe votre pièce par rapport à ça?
Non, je crois pas que ça soit la même démarche tout à fait. Je crois pas que Verhelst veuille absolument étudier ces mécanismes-là. Là, en l'occurrence, c'est là où je pense qu'il est vraiment, alors pour le coup, fidèle à Shakespeare. C'est-à-dire que tout est à lire en même temps. Il n'y a pas, je veux dire, l'aspect humain intime. Je veux dire, on pourrait aussi très bien ne lire que cette pièce que du point de vue de, je ne sais pas, d'une personne qui se détruit, enfin, je veux dire, sans penser forcément à la question politique, et du lien d'une mère à un enfant qui s'autodétruit. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a, des aspects purement humains et purement vraiment profonds, intimement très délicates. Mais par exemple, il y a le dernier, hein, vers la fin, la mère semble réintroduire le corps de Richard dans son ventre, enfin comme une mère qui réavale son enfant. Et il y a vraiment des choses dedans qui échappent complètement à la question du pouvoir, qui échappent complètement à la question du politique, et qui sont purement des désirs de compréhension humaine. C'est pas tout à fait son truc, je crois. Là, en l'occurrence, c'est une écriture politique au sens fort, je pense. Et d'ailleurs, il a écrit d'autres choses. Là, il vient de réaliser. En fait, il a fait un texte d'après Salo de Pasolini. Enfin, c'est quelqu'un qui est très sur cette. Il essaye de révéler comme ça, de manière un peu violente ou un peu d'être un endroit politique très comme ça, à la fois fragile et brûlant et violent. Donc il est dans une démarche politique au sens fort, c'est-à-dire dans sa poésie, hein, dans le sens de son engagement d'écriture, mais c'est pas son obsession, je veux dire, de décortiquer les mécanismes du pouvoir. Il se trouve que c'est une pièce qui le fait, ça c'est sûr, la pièce le fait de manière admirable, et donc il le reprend ça dedans. Mais, encore une fois, comme je crois, toute belle écriture, et encore une fois, comme chez Shakespeare, on peut y trouver plein de choses en même temps, et entre autres c'est cette dimension humaine. Il y a une chose qu'il je crois, et ça je vais le découvrir davantage en travaillant, mais c'est là qu'il explore beaucoup. J'en ai parlé avec lui, mais ça c'est quelque chose qui est un peu plus loin de nous, donc il faut que je m'en rapproche. C'est la question de la chrétienté, de la représentation du catholicisme en Belgique flamande, qui est en fait très proche de l'Espagne, donc en fait qui est très démonstrative, extrêmement violente. Et là, j'ai mieux compris d'ailleurs beaucoup de spectacles que j'avais vus ici au festival et les problématiques de Yann Fabre et toute cette problématique de cette école flamande, parce que effectivement la chrétienté est vécue là-bas de manière extrêmement importante, viscérale et très latine dans le lien de la Flandre à l'Espagne. Et donc c'est très présent dedans. Et la foi. Et la question de la foi compte énormément aussi. Et la question de... Voilà, donc il y a plein d'entrées, en fait, qui sont plus comme une boule dans laquelle on va retrouver des choses et qui traitent de ça comme un prisme plutôt que d'une simple analyse politique des choses. Enfin, c'est présent aussi, bien sûr.
Silence après la garde, de la garde, hein, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a encore des questions ? Ça va ? Que vous dire d'autre pour conclure ? Oui ? Oui, allez-y.
Oui. Oui, je voudrais que vous précisiez un petit peu par rapport à Gerhard Richter, parce que vous avez parlé vraiment de manière très succincte, parce que d'une certaine manière, ça fait assez plaisir après Yann Fabre ou Joseph Nash, qui ont travaillé beaucoup sur... Par exemple, Henri Michaux sur l'actionnisme viennois ou Joseph Beuys, par exemple, qui ont beaucoup travaillé sur le mysticisme, et ça faisait extrêmement plaisir d'entendre quelqu'un du théâtre qui parle d'un artiste contemporain qui s'intéresse à des questions de l'image, parce que Gerhard Richter utilise de la peinture de chevalet hyper réaliste, en passant par des images extrêmement pixelisées ou des images porno floues. Et ça m'intéressait parce que vous avez travaillé sur une interprétation, une lecture un peu post-productive, on pourrait appeler ça, de la pièce de Richard III. Et Gerhard Richter travaille l'image un petit peu avec un I majuscule, comme une banque de données, comme une espèce de stock, qui est réactualisé pour savoir qu'il n'y a en fait aucune finalité à l'image, puisqu'elle est toujours en mise en route. Mais je voulais savoir, par rapport à votre technique de mise en scène, de relation avec tout ce que vous avez dit par rapport à la visibilité de votre pièce, dans quel sens le travail de Gerhard Richter vous intéresse ?
Vous avez très très bien parlé.
Je veux dire, ça fait vraiment plaisir de rencontrer quelqu'un du théâtre, enfin, après Yann Fabre et après Joseph Natch, quelqu'un qui s'intéresse justement à une image contemplative de notre réalité, et pas un antécédent d'une église avec un majuscule.
Je comprends, je comprends.
De la religion dans le sens...
Je comprends très bien ce que vous dites, mais comment vous répondre, c'est plus intuitif qu'autre chose. Il se trouve que moi, je regarde énormément d'œuvres, enfin, d'artistes contemporains, et donc je vais essayer de voler comme ça, de m'inspirer. Mais c'est plus des influences qui vont se retrouver au détour après de ces visions-là. Je peux pas vous dire. Les images sont trop petites, mais vous voyez, quand je tombe, il y a deux choses. Par exemple, là, dans cet ouvrage-là, qui est l'ouvrage sur les portraits. Il y a deux images qui m'ont vraiment frappé. C'est une image qui est trop petite, je vous montrerai après, mais qui est juste qui donne une idée comme ça du luxe, voilà, d'un certain glamour, mais de manière évidemment floue dans un mouvement, c'est-à-dire quelque chose qui, voilà, et tout d'un coup, je reviens à ma mémoire, Persépolis, le Shah d'Iran, les Kennedy. Et c'est ça, ça ouvre, voilà, chez moi, tout de suite. Donc une certaine idée du luxe dans le haut lieu du pouvoir de toute la deuxième partie du XXe siècle et aujourd'hui, une confusion comme ça de la jet set et du pouvoir, du satin et en même temps d'une image tronquée de ça et en même temps dans sa représentation, dans son saisissement flou. Enfin voilà, donc ça m'intéresse. Tout d'un coup, ça me dit OK, ça me donne une piste. Comment on représente ça aujourd'hui. Une autre image que je peux vous montrer parce qu'elle est un peu plus grande, mais si je la trouve, parce que c'est assez drôle. Et là, ça concerne peut-être davantage le maquillage et les costumes. Juste pour vous dire une chose, par exemple, ça c'est une photo de Kennedy, mais elle est trop petite. C'est Kennedy avec un costume un petit peu court, le président américain, et le visage comme s'il avait pris un déformé, comme s'il avait pris une porte de garage. Vous voyez, ça lui fait une petite tête de cochon, mais il est et c'est pas mal ça. C'est-à-dire que c'est à la fois glamour et cochon. Donc ça m'intéresse. Et puis je ne la trouve pas. Voilà. Bien. Si. Et puis voilà, c'est quand même marrant quand on travaille une pièce où il y a la reine Elisabeth. D'un coup, il y a notre chère Elisabeth qui est toujours là, hein, avec une sorte de... il n'y a plus une seule ombre sur son visage. Elle est complètement à plat, vous voyez ? Avec juste deux petits yeux brillants, et puis ce fameux rouge à lèvres rouge, 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 et la robe rouge, 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 et puis le collier comme ça, diadème, hein, et puis une sorte de souvenir de couronne, un peu de traviole sur sa tête. Ouais, ça, c'est un... Alors, ça dit quelque chose, quoi.
Là, en fait, vous parlez de manière très formelle, mais c'était plus dans l'idée de la démarche de Gerhard Richter. Il n'utilise jamais le même manière, que ce soit la photo, la peinture, ainsi de suite. Donc, c'était plus dans sa démarche.
Non, mais bien sûr, je comprends très bien. Mais là, je veux donner des exemples concrets pour l'auditoire. Après, moi, je ne rentre pas forcément dans la théorie de Richter. Simplement, il me semble, d'une manière intuitive, j'ai envie de travailler. Et ça peut-être pour répondre aussi à ce monsieur, c'est-à-dire que dans l'évolution de mon travail, et quand j'aborde cette pièce-là, c'est la question du réalisme. Voilà. Donc j'ai envie de traiter cette question et j'ai envie de me nourrir pour travailler et pour de voir comment on peut aujourd'hui au théâtre à nouveau s'emparer du réalisme et comment. Et donc en plongeant dans Richter, par exemple, il me donne des clés. Tout d'un coup, il m'ouvre des perspectives sur effectivement cette manière... plate, objective, de travailler la réalité. Parce que je pense que c'est pour cette pièce en particulier, d'une manière générale, la question du réalisme m'intéresse. Que après Fairy Queen, où d'une manière j'avais fait atterrir des expériences plus formelles, comme Le Colonel ou Retour définitif et durable de l'être aimé de Cadio, dans le théâtre, et où finalement je m'étais réemparé d'une certaine manière du réalisme. Mais là, je veux aller plus loin et justement pousser ces questions-là. Et donc là, le travail de Richter, par exemple, m'aide. Mais je me sers aussi, par exemple, d'un gros livre sur Walt Disney, en ce moment, qui m'intéresse beaucoup. Vous savez, il y a une grosse exposition qui a eu lieu à Paris sur Walt Disney. Et c'est très intéressant parce que c'est pour remonter en arrière. C'est-à-dire, c'est une exposition et donc il y a un gros ouvrage qui est paru sur quelles sont les sources de Walt Disney. C'est-à-dire qu'on, évidemment, on pense toujours que à quel point on le sait ou on devine ou, et on sent que Walt Disney et le cinéma cartoon américain et le grand cinéma américain a influencé nos vies d'une certaine manière. Ça. Mais comment lui-même a été construit, à partir de quelles sources? Et donc, c'est très intéressant de démonter ces mécanismes-là. Et de voir par exemple que la maison de Blanche-Neige a été prise sur le modèle d'une maison dans Métropolis de Fritz Lang, c'est intéressant. C'est de voir que déjà ça fonctionnait dans l'autre sens. Et comment, quand on redéplie ça aujourd'hui, c'est intéressant. Parce que l'histoire du conte de fées, c'est quelque chose voilà, qui m'intéresse, que j'ai envie de retravailler. Je pense à ça aussi. Dans quel conte de fées sommes-nous hein, ou à quel conte de fées veut-on nous faire croire, et ainsi de suite. Donc ça fait partie aussi de la représentation symbolique du monde qu'on nous propose. En tout cas dans le champ, pas dans le hors-champ. Donc je regarde ça, puis on regarde plein de choses. Je regarde effectivement tout le travail de Bacon sur la photo, comment il a retravaillé dans son atelier les photos, comment il... Voilà, et puis des tas d'autres ouvrages. Voilà.
Est-ce que la pièce a été jouée déjà ?
Oui, madame. Elle a été créée donc en Belgique, oui. Par Johan Simon, justement, le metteur en scène dont parlait Vincent tout à l'heure, et Laurent, qui a créé la pièce en Belgique, je ne sais plus, il y a quelques années, mais je ne sais plus où. Voilà. Et je crois que c'est la seule fois où elle a été jouée. Mm-mm. Voilà. Et en principe, la pièce sera publiée pour cet été, pour le festival. Donc elle sera... Parce que pour l'instant, aucun texte de Vérès n'a été publié en France, donc on ne peut pas le lire. Donc, ce sera la première fois que. Donc, il y aura normalement cette pièce-là avec une autre pièce. Il y aura deux pièces publiées pour le festival. Bon, ben voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ludovic, merci beaucoup Laurent.
Merci à vous.
Et on vous invite comme d'habitude à boire un verre. Et je voulais juste vous faire une petite annonce. Il y aura une rencontre mi-février, mais on n'a pas encore calé tout à fait la date. Donc vous allez recevoir un courrier. Et dans ce courrier, il y aura une petite feuille jointe parce qu'il y a l'un d'entre vous qui a pris une initiative dont on se réjouit de créer un groupe qui s'appelle le groupe Miroir, qui va être une proposition de pouvoir venir discuter avec des metteurs en scène et voir leurs répétitions. Donc une sorte de sous-groupe du groupe des curieux. Donc tout ça vous sera expliqué dans le courrier qu'on va vous envoyer d'ici 15 jours. Merci beaucoup.
Merci.